Une vie érotique.
Ma vie érotique.
Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens.
Je vous propose de voyager dans la vie érotique de Stella. Salut Stella.
Bonjour.
Qu'est-ce que t'aimes bien? Comment t'aimes être attachée, toi?
Alors, moi, j'aime bien les choses qui m'étirent. J'aime bien les choses qui me tordent, m'ouvrent. Tout ce qui est très replié, par exemple, c'est des choses qui sont psychologiquement dures pour moi. Et dans lesquelles qui sont très intéressantes parce que ça fait monter tout ce qui est le stress, le shibari, il y a quand même un côté qui est c'est ça produit des choses dans le cerveau,
des émotions,
de l'adrénaline, de l'endorphine.
Ah, tu veux dire des choses très chimiques,
oui, des choses très chimiques. Le stress, tout ça. Donc.
Et ça, c'est excitant?
Oui.
Ah bon, pourquoi?
Pourquoi?
Toi, ça t'excite d'être stressée? Ou d'être.
Ça m'excite d'être dans des sensations intenses.
Quelle qu'elle soit, de douleur
non.
ou de plaisir?
Pas quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que par exemple, j'ai aucun intérêt à faire le grand 8 ou des choses comme ça. Ça m'intéresse pas du tout. Mais d'aller dans des choses intenses qui mettent mon corps qui poussent mon corps dans ses limites, c'est quelque chose que je recherche.
Tu m'as dit que t'aimais bien la douleur.
Oui. Oui.
Mais c'est vrai que...
Pardon.
Je pensais à ça quand tu me dis que, justement, que tu cherches des sensations physiques intenses, dont la douleur, par exemple.
Oui.
Ça peut être pour toi quelque chose d'excitant ?
Oui. Pour en revenir aux sensations qu'on peut avoir avec le shibari, il y a un côté où, selon la façon dont c'est fait, sur des liens qui sont pas trop violents pour le corps. Moi, je ressens des choses où je flotte. C'est un peu comme être sur un petit nuage. Et en redescendant, j'ai l'impression c'est comme si j'avais fumé un gros joint, quoi. Enfin, c'est des choses dans le cerveau. Et avec la douleur, c'est encore plus intense. Parce que c'est un peu comme, je pense, les gens qui deviennent accros au tatouage. Moi, je suis pas tatouée, donc je sais pas. Mais ce que j'entends dire, c'est que c'est une douleur qui est addictive. Parce que ça, avec la douleur, le corps réagit en relâchant des endorphines. Et donc, en fait, c'est une douleur, mais qui... C'est un mix de douleur et de plaisir qui est assez puissant.
Donc, toi, t'aimes qu'on t'attache pour que tu sois... Que t'es un peu mal, ou que t'es mal.
Oui.
Et d'être plutôt ouverte, étirée, tordue, en fait.
Oui, c'est ce qui me plaît le plus. J'aime bien, dans une certaine mesure, être exposée.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, quand on attache avec les bras qui sont relevés, forcément la poitrine est dégagée par rapport à quand on attache avec les bras repliés autour de la poitrine. Moi, j'aime bien le côté d'être ouverte.
Écartelée ?
Oui, éventuellement. D'être accessible, d'être visible, d'être... Il y a tout un côté là-dessus aussi, hein, dans le shibari, il y a aussi un jeu sur l'humiliation ou la... J'aime pas trop dire la honte, je pense que ça marche pour certaines personnes, mais moi je le vis pas comme une honte du tout. Mais en tout cas, il y a un côté, bien sûr, tu es complètement attaché. Donc là, si j'ai envie, je peux découper ta culotte. Enfin, pourquoi pas. Te prendre en photo. Beaucoup de gens font ça. Moi, je suis pas trop dans les photos. C'est... Mais de façon générale, j'aime bien vivre l'instant et sans avoir cette mise à distance que peut procurer la photo.
Et donc ton amant t'attache ?
Oui.
Et après il te pénètre ?
Non.
Une fois que t'es attachée ?
Non, non, pas vraiment.
Ah, ça se passe pas comme ça ?
Ah non. Alors, en fait, si, pour avoir des relations sexuelles de type pénétration, il vaut mieux faire du bondage assez simple. Parce que, en fait, c'est quand même une pratique à risque. Et le modèle peut quand même avoir des... Enfin, il faut pas qu'il y ait des blessures, en fait. C'est pas le but. Et donc, si la personne qui attache ne garde pas le contrôle de la situation et se laisse emporter, par exemple, par le fait d'avoir un rapport sexuel de type pénétration, il ne sera pas aussi attentif à ce qui se passe pour le modèle et on peut risquer d'avoir des problèmes.
Ah, donc en fait, vous n'avez pas de rapport sexuel quand il... Enfin, plutôt, c'est un rapport sexuel, mais pas de type... Pas avec pénétration, en fait, quand il t'attache.
En fait, très souvent, le fait d'être attaché va être peut-être un prélude à un vrai rapport sexuel. Ou alors, ça va être avec une stimulation sexuelle, voilà, avec les doigts ou avec un objet, mais pas...
Pas avec son sexe à lui.
Pas avec son sexe à lui.
D'accord.
Ça va être quelque chose où sa jouissance à lui n'est pas du tout le focus.
C'est ta jouissance à toi ?
Oui, éventuellement. En tout cas, c'est mon plaisir. C'est parce que tout le... Y a pas, c'est pas du tout une pratique où forcément il doit y avoir un orgasme dedans.
C'est un autre type de plaisir ?
Oui, c'est un plaisir qui est basé sur voilà, les endorphines, qui est basé sur et la douleur et qui est basé sur tout ce qui est mental.
C'est très psychologique, en fait, comme plaisir.
C'est très psychologique, oui. Il y a un sentiment de c'est un jeu de pouvoir très net.
Et toi, qu'est-ce qui te procure tellement de plaisir, alors, dans ce jeu psychologique ? Parce que t'es une femme puissante dans ta vie, t'as du pouvoir sur ta vie, t'es indépendante, tu gagnes ta vie, etc. Est-ce que c'est le fait de complètement te renverser et de t'offrir et de ne plus avoir de pouvoir du tout qui t'excite tellement ?
Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose de très primal. Moi, j'aime bien me sentir très femelle et sentir mon partenaire très mâle dans tout le... l'archétype qu'il peut y avoir là-dedans.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire me sentir, enfin le sentir sa force et sa puissance et moi me sentir un peu fragile et soumise. Enfin, c'est des gros clichés et ça ne reflète pas du tout le type de relation qu'on a hors jeu.
Hors-jeu sexuel.
Hors-jeu sexuel, bien sûr. Mais j'aime ça. Et à l'inverse, je déteste les situations où je me sens maternelle par rapport à mon partenaire. Notamment, voilà, j'ai dit que j'étais assez grande. J'aime pas trop avoir des relations sexuelles avec des hommes qui sont petits parce que j'ai l'impression d'être leur maman.
Et est-ce que ça te dérange qu'il te lèche les seins, par exemple, pour la même raison ?
Peut-être, ouais, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a vraiment un truc qui est lié à la taille. Et du coup, et à ce sentiment de... j'ai besoin de sentir la force physique de mon partenaire. Je l'explique pas trop. C'est assez, c'est assez primal. Et donc, voilà, ça, c'est un... Il y a un côté, voilà, moi mâle, toi femelle, assez évident. Oui, je trouve ça, donner pouvoir à quelqu'un sur moi, quelque chose que je trouve qui me parle beaucoup. Mais après, pourquoi je comment je l'explique? Il y a un côté de perte de contrôle. Je suis quelqu'un de très cérébral, je suis quelqu'un de très organisé, j'aime bien gérer les choses, tout ça. Et c'est vrai que dans ce genre de pratique, ben non seulement je décide rien du tout, c'est pas du tout moi qui suis
en charge,
en contrôle, en charge, voilà. Et aussi tous ces processus chimiques qui se passent ont pour résultat que au bout d'un moment, moi j'ai l'impression que mon cerveau est juste assailli de ces hormones qui viennent de toutes parts et incapable de toute pensée cohérente. Ça c'est un truc dont je me suis rendu compte dans des séances de Shibari qui sont assez intenses pour mon corps. Avec mon partenaire, on communique en anglais. Je perds mon anglais.
Tu sais plus parler?
Je sais plus parler. J'ai un très bon niveau d'anglais, mais j'arrive plus à dire il faudrait descendre ma jambe. Enfin, des choses aussi basiques
mais
que
comment,
ça.
Comment tu fais? C'est dangereux alors?
Non, comment dire? On y arrive. Enfin, c'est. Mais. C'est un peu genre, j'arrive à communiquer qu'il y a un problème. Alors il me dit, c'est où? Si j'arrive pas à trouver le mot, il va par exemple me toucher la jambe et dire, est-ce que c'est là? Et là, je vais dire, oui, c'est ça. Bon, c'est quand même. On connaît quand même les points. Enfin. Les points à risque, on les connaît. Les points qui sont difficiles pour moi, on les connaît, parce que aussi ça peut changer d'une personne à l'autre, bien sûr. Il y a des gens qui ont beaucoup de force dans les bras, par exemple, d'autres non. Moi, je sais que me mettre une corde autour de la taille, sur laquelle vraiment le corps peut reposer en l'air, c'est quelque chose qui peut me rendre nauséeuse. Il y a plein de gens qui, au contraire, aiment beaucoup avoir une corde au niveau de la taille, ça leur pose aucun problème. Voilà.
Tu t'es découverte, en fait, au fur et à mesure de tes pratiques.
Ouais.
D'être. Est-ce que toi, tu aimes bien attacher?
Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a une partie de moi qui... c'est mon côté féministe, etc., ça m'embête un petit peu cette relation, enfin ce cliché de femme qui se fait attacher, homme dominant, enfin
plus âgé
en plus. Voilà, j'ai un peu l'impression d'être et quelque part j'aimerais bien d'une façon presque militante renverser les rôles, voilà. Et je sais que mon partenaire n'aurait pas de problème si je souhaitais le faire, mais en fait à ce stade ça m'intéresse pas. Parce que il y a un côté quand tu attaches, c'est un côté très technique qui moi là ne m'intéresse pas pour l'instant. Et puis aussi il y a une grosse responsabilité. C'est faut faire attention à l'autre tout le temps. Il faut que ça se passe bien pour l'autre d'un point de vue sécurité, mais aussi d'un point de vue est-ce que le modèle avec qui je pratique passe un bon moment. Prend du plaisir, quelle que soit la façon, le type de plaisir. Mais c'est toi le pilote et toute la façon dont va se passer le voyage repose sur tes épaules. Donc
t'as pas trop envie.
Non, c'est une position peut-être un peu paresseuse, mais en fait dans toutes les ça se retrouve dans d'autres types de relations. Où il y a domination-soumission, on pourrait croire que c'est la personne qui domine, qui est qui a la bonne position entre guillemets, et en réalité c'est la personne qui est soumise qui a la bonne position parce que
la plus agréable, tu veux dire
la plus agréable parce que enfin la moins celle
la moins angoissante.
Tout est fait pour elle. C'est qu'elle, d'une certaine façon, la personne soumise, c'est une princesse, quoi. Voilà.
Je crois que c'est pour ça qu'il y a tellement de... Parce qu'en fait, tout ce que tu racontes, ça peut faire penser... La seule référence de la pop culture, c'est Fifty Shades of Grey, quoi. C'est 50 nuances de gris,
ouais.
Là. Et tu crois que c'est pour ça que ça a eu tellement de succès, que c'est tellement attirant?
Peut-être. Moi, je l'ai pas lu, j'ai pas vu le film. Ça m'intéresse pas trop. J'ai l'impression
c'est
que
c'est pas du shibari, c'est du bondage en
ouais,
fait.
Ouais. J'ai l'impression que ça m'énerverait plus qu'autre chose. Mais il y a un côté où effectivement l'héroïne, elle est attachée, soumise, etc. Mais en même temps, voilà, on la couvre de cadeaux.
C'est un homme fort, dominant,
c'est un homme
beau,
fort
etc.
Et qu'il. Mais il y a un truc en fait, par exemple, d'être quand on est attaché. C'est toi l'œuvre d'art. C'est toi qui est admirée, qui est
Parce que tu le fais en public. Ça t'est arrivé de le faire en public?
Oui, notamment dans tout ce qui est cours, etc.
Mais là, t'es habillée quand tu fais.
Oui.
Et ça t'est déjà arrivé de le faire en public nu?
Pas entièrement nu, non. Ça m'est arrivé de le faire en public et d'avoir d'être en sous-vêtements et d'avoir à un moment la poitrine dénudée dans le cadre de tout ce qui se passe.
De tout ce qui se passe.
Oui, enfin voilà, c'est pas commencé. C'est pas un truc où je vais commencer en étant en ayant la poitrine dénudée, mais dans la séquence, on va dire, à un moment, voilà, ça va se. Pendant que je suis attachée, justement, je vais avoir la poitrine dénudée avec ce côté je fais ce que je veux de toi.
Et ça, ça provoque une excitation particulière chez toi que ce soit fait en public, d'être regardée par
oui,
d'autres.
Oui. Alors, par contre, je suis pas exhibitionniste au sens. J'ai aucune excitation à l'idée de pouvoir être surprise par quelqu'un qui nous tomberait dessus, voilà. Où j'ai pas du tout envie de d'ouvrir mon imperméable dans le métro ou que sais-je. Par contre, dans un espace avec des gens avertis, on va dire, de pouvoir être vu. Même si, oui, de pouvoir être vu,
c'est
quelque chose que je trouve excitant.
Est-ce que tu veux bien nous raconter ton meilleur souvenir sexuel?
C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Je sais pas si j'en ai un qui se détache par rapport à tout le reste. J'ai plein de très bons souvenirs sexuels. Mais de la même façon, quel serait mon pire souvenir sexuel?
Oui, est-ce que t'en as?
Alors, j'ai réfléchi un peu à ça et j'en ai deux, si on veut. Enfin, l'un, c'est toutes les fois où j'ai eu des rapports sexuels avec quelqu'un qui ne se préoccupait pas du tout de mon plaisir. Voilà, où j'étais genre, j'attendais que ça se passe.
Tu faisais l'étoile de mer?
Ouais, plus ou moins.
Et ça, c'était comment, dans quel contexte? Avec qui?
J'étais pendant plusieurs années dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas. C'était une relation qui, au final, s'est révélée assez toxique. C'était quelqu'un qui était très nourri par le porno. Et du coup, au début, quand on a commencé à se voir, il m'a ouverte à certaines choses que j'avais jamais fait jusqu'à présent, comme par exemple les insultes, des choses comme ça, que je trouve plutôt intéressant. La contrepartie, on va dire, je sais pas si c'est la contrepartie. Peut-être que c'est, je sais pas si c'est le porno ou quoi que ce soit. Je pense que c'est peut-être juste lui dans sa tête. Il avait des blocages sur des trucs. Il faisait passer son plaisir avant tout.
Il était bloqué sur quoi, par exemple?
Par exemple, il était complètement, c'était complètement impossible que je fasse le premier pas sexuellement.
Il voulait pas que t'exprimes ton désir.
Oui. Il voulait que je sois dans la réception de son désir et pas dans l'expression de mon désir.
Tu pouvais pas lui dire j'ai envie de toi.
Pas trop. Enfin, si, je pouvais lui dire. Mais si, par exemple, on était au lit et que moi, j'avais envie et que lui n'était pas déjà en train de me sauter dessus... Voilà. Et en fait, au début, c'était pas un problème parce que de toute façon, au début, enfin... on avait tout le temps envie l'un et l'autre et que du coup, mon désir, son désir était assez coïncidait pas mal. Puis au fur et à mesure de la relation, ça c'est, enfin c'était pas forcément le cas et c'était quelque chose d'assez.
Et donc il se fichait complètement de ton plaisir.
Pas mal. Ouais.
Donc t'étais pas très heureuse sexuellement avec lui en fait.
Non. Et de moins en moins au fil du temps. Mais après pour d'autres raisons aussi. Enfin je veux dire c'était aussi quelqu'un qui n'aimait pas forcément vraiment mon corps. Enfin.
Il aimait pas ton corps.
Alors c'était quelqu'un qui avait une fascination pour les gros seins et. Et bon, bah moi, je trouve que j'ai des seins très bien, mais d'une taille standard. Voilà, je fais un 90B. Bon. Et lui, il était vraiment sur les bonnets C, D, voilà. Et du coup, c'était quelque chose dont il me parlait.
Du fait que t'avais pas des gros seins.
Ouais. Et du fait, pas tellement du fait que j'avais pas des gros seins, mais plutôt du fait de ah là là, les seins de telle personne, incroyable. Et voilà.
Ouais, c'est cruel.
Et du coup, en sortant de. Enfin, par exemple, pour le faire jouir, typiquement, on allait être position genre missionnaire. Et au moment où ça commençait à monter, ben moi, j'allais rapprocher mes bras pour. Rapprocher les seins l'un de l'autre et donner l'impression d'une poitrine plus opulente. Et ça c'était l'arme fatale, quoi.
Mais c'était pour lui.
Mais c'était pour lui.
Et lui, il faisait quoi pour toi ?
Pas grand-chose, au final.
Et ton deuxième souvenir, le pire souvenir sexuel que tu voulais raconter ?
C'est quelque chose où, sur le moment, j'ai pas tiqué plus que ça. Et en fait, en y repensant dernièrement, je me dis c'était vraiment pas cool. C'était une fois où c'est moi qui ai attiré une connaissance chez moi et voilà et puis je lui ai manifesté mon désir sexuel et puis
comment t'as fait?
Ah je lui ai dit que j'avais envie de l'embrasser et puis ok et puis après ça c'est parti dans la chambre et puis voilà et en fait je pense que et c'est un rapport qui a été un petit peu avorté. J'avais des préservatifs, mais pas de la bonne taille, je crois, ou quelque chose comme
ça. C'était pas assez grand?
Je sais plus, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu un problème au niveau de l'érection, et au final, ça a été un petit peu avorté. Bon, il est reparti, on s'est dit, ah, on se revoit, machin. Et en fait, il m'a un peu, par la suite, moi, je lui ai envoyé des messages, genre, est-ce que t'es disponible? Et puis, il me répondait un peu évasivement et tout ça. Bon. Puis, moi, j'étais genre, bon, si t'étais pas intéressée, fallait le dire. Hein. Enfin, c'est pas un drame dans ma vie, mais voilà. Et en fait, rétrospectivement, je me dis que j'ai pas bien agi, que je l'ai un peu piégé. Et que je l'ai un peu. Je suis pas sûre qu'il avait vraiment envie, en fait, d'avoir un rapport sexuel avec moi. Et j'ai l'impression qu'il a peut-être pas osé dire non sur le moment.
T'as l'impression d'avoir un peu forcé son consentement.
Ouais, j'ai l'impression d'avoir un peu forcé son consentement et c'est pas cool.
C'est très rare d'entendre des femmes dire ça. Mais peut-être qu'on, bien sûr qu'on peut aussi forcer le consentement des hommes en fait.
Ben en fait, il y a ce côté avec où les hommes sont censés être toujours tellement. Enfin, il y a ce cliché de l'homme veut et la femme ne veut pas. Donc c'est difficile aussi pour un homme d'aller contre, de dire non, je ne suis pas désirant. À la fois par rapport à l'image que ça lui renvoie de lui-même, et aussi parce que c'est dur de dire à une femme « je ne te désire pas » quand on est censé la désirer. Enfin, c'est...
Quand on est censé la désirer toujours parce que n'importe quelle occasion sexuelle est bonne à prendre.
Voilà, c'est ça. Hmm. C'est genre, on peut avoir l'impression qu'on va vraiment blesser la femme en face de soi, quoi. Donc on peut se sentir un peu obligé...
Et en fait, il avait peut-être pas vraiment envie.
Et en fait, je pense qu'il avait peut-être pas vraiment envie.
Et donc ça, c'est un de tes pires souvenirs sexuels.
Ben pas sur le moment. Sur le moment, j'étais juste genre, bon, c'était pas terrible. Et puis franchement, bon, s'il a pas envie, il a qu'à me le dire au lieu d'arrêter de répondre à mes messages. Enfin, ça irait plus vite, quoi. Mais en fait, rétrospectivement, ça me laisse un goût un peu amer dans la bouche, quoi.
Tu es polyamoureuse ?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que j'ai des relations amoureuses avec plusieurs personnes à la fois.
En ce moment, c'est deux hommes, depuis 3-4 ans, c'est ça ?
Ouais, depuis 3 ans et demi.
Comment ça se passe ?
Ça se passe très très bien. Alors, je veux juste préciser, c'est des relations... j'ai deux relations, j'ai pas une relation avec deux hommes.
C'est pas un trouble.
Non, voilà. C'est deux histoires différentes.
Et sexuellement, ça se mélange pas.
Et j'ai des types de sexualité très différentes avec l'un et avec l'autre.
Comment ?
Alors, j'ai un partenaire dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent, avec qui j'ai des pratiques plutôt qui tendent plus vers des choses de domination, soumission, bondage,
shibari,
etc. Avec mon autre partenaire n'est pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la douleur, à ce genre de choses. Donc du coup, c'est des relations qui sont plus dans la tendresse, dans la sensualité, qui sont du coup aussi plus orientées pénétration, par exemple. Au final, il y a beaucoup de dans ma première relation, il y a beaucoup de plaisir qui est pris de façon non, enfin qui il y a pas de pénétration
ni même de contact sexuel directement, en fait, j'ai l'impression, non?
Bah après, encore une fois, oui, beaucoup de plaisir qui est pris sans même de contact sexuel directement. Après, encore une fois, l'orgasme, moi j'ai quand même besoin qu'on me stimule d'une façon ou d'une autre, mais il y aura beaucoup de choses qui seront, où ça sera de la sexualité orale, ou de la masturbation, ou des choses comme ça. Avec mon autre partenaire, avec
celui qui est à Paris,
on a une sexualité plus normale, entre guillemets, pas dans la recherche de sensations extrêmes et basé plus sur la pénétration.
Et qu'est-ce que tu aimes faire avec lui ?
Tout.
Tu peux prendre de l'eau, hein, on peut recouper et tout.
Attends 2 secondes.
Ouais, bien sûr.
Alors avec lui, j'aime... un peu tout ce qui est la sexualité classique, enfin je veux dire tout ce qui est bon évidemment pénétration anale vaginale, tout ce qui est sexe oral, on fait plein de choses qui sont très drôles, en fait.
Vous riez,
on rit beaucoup.
Vous riez beaucoup quand vous faites l'amour?
Bah alors peut-être pas au moment du coït proprement dit, mais oui, on dit beaucoup de trucs.
Comme quoi? Pourquoi vous riez? De quoi vous riez?
On se fait des petits scénarios, mais pas dans la domination soumission du tout. Un bon souvenir sexuel, par exemple, c'est une fois. J'avais trouvé cette playlist qui était avec des musiques de films porno des années 70. Donc déjà c'est de la musique assez sympa. Et on avait mis ça et on était sous la couette et on a commencé à se raconter des scénarios de films porno. Complètement cliché, complètement, enfin, du type plombier, voilà.
C'est du type plombier.
Bah du type, voilà. Bonjour, je viens vous déboucher les canalisations, enfin, mais sans. En reprenant chacun la narration l'un par rapport à l'autre et en partant dans des histoires comme ça.
Cliché donc drôle.
Ouais, voilà, cliché donc drôle et au bout d'un moment ça a fini par déraper sexuellement, mais
en fait ça vous excitait quand même.
Oui, mais c'est aussi dans la complicité, c'est aussi dans le fait de parler aussi, même à travers des choses qui sont un peu clichés, de parler de choses qui nous excitent. Parce que moi, je me rends compte qu'un des trucs les plus difficiles pour moi, c'est de nommer mes désirs.
Ah oui?
Ouais. C'est de verbaliser, de dire oui, j'ai envie que de ça. Et d'une certaine façon, c'est le fait de commencer à se faire des scénarios avec, je sais pas, mettons un gangbang dedans, des trucs comme ça, c'est une façon de dire ça m'excite. Même si c'est cliché, même si... Enfin, l'humour permet aussi d'exprimer des choses. D'une façon moins...
Moins crue ou moins frontale?
Moins effrayante. C'est effrayant de se mettre à nu.
De dire « ça m'excite les gangbangs ».
Oui. Même si c'est d'une façon purement fantasmatique et qu'en réalité, si on me disait vraiment « j'ai envie d'organiser ça », je pense pas. Dans la vraie vie, je le ferai pas. Mais juste de dire « dans ma tête, ça m'excite », c'est pas évident.
Est-ce que maintenant, parce que tu as dit qu'au début, par exemple, ta toute première relation, t'arrivais pas à dire que t'avais envie d'explorer ta sexualité anale et tout ça. Mmh. Et maintenant, t'arrives mieux à exprimer ce que tu désires. Est-ce que t'en as plus conscience, t'en as mieux conscience ou t'arrives mieux à l'exprimer aussi?
Un peu les deux. J'ai plus d'assurance, j'ai des partenaires qui ont plus d'assurance et plus d'expérience. Voilà, c'est possible aujourd'hui pour moi d'exprimer des choses que ça n'aurait pas été possible à 16 ans. Mais malgré tout, il y a des choses où... Un autre truc, par exemple, c'est quand, des fois, quand je fais du shibari, dans un contexte un peu plus sexuel, ça arrive à mon partenaire de me demander ce que j'ai envie qu'il fasse. Et j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Et je me suis rendu compte que, par contre, si la question est formulée plutôt comme « si tu étais moi, qu'est-ce que tu ferais ?», ça, j'y arrive. Mais de dire ce que moi je veux.
Tu sais pas ce que tu veux en fait.
J'ai du mal. Et par contre, si c'est genre. Si t'étais moi, tu ferais quoi? Là.
C'est comme si tu pouvais. Est-ce que tu crois que c'est à voir avec le genre, le fait que si tu te mets dans la peau d'un homme qui te désire, alors là tu sais quoi faire, alors que. Tu sais pas.
Où... Non, parce que. Un autre. Quelque chose qui me fait un petit peu fantasmer, c'est l'idée de faire du shibari avec une autre femme, donc avec mon partenaire, moi, et une autre femme. Et en fait, dans toutes les configurations possibles, mais aussi dans la configuration aussi où il y aurait une autre femme attachée et où moi, je la torture.
C'est-à-dire que tu l'attaches ou tu la tortures?
Alors, je n'ai pas les compétences pour l'attacher. Donc, je pense que ça serait un peu de diriger mon partenaire.
De dire, j'ai envie que tu l'attaches comme ci ou comme ça. Ouais, mais lui, là, le genou...
Voilà, ouais. Ou des choses... j'arrive bien à me projeter dans le côté, genre, c'est moi qui ai le pouvoir et il y a une femme qui est attachée. Et à qui je fais des choses. Bon, torture, c'est un mot un peu gros.
Tu ferais quoi peut-être. Avec des bougies, avec des fouets, avec quoi? Qu'est-ce que tu lui ferais?
Alors, ça a l'air un peu peut-être étrange, mais il y a une image qui vraiment me. Et j'aurais envie que ce soit une femme qui porte un rouge à lèvres très bien appliqué, voilà. Et j'aurais envie qu'elle soit. Attachée, suspendue, et avec ma main, lui étaler le rouge à lèvres, le faire complètement déborder de sa bouche. Voilà. J'aime cette idée de...
Ça, c'est une image érotique pour toi.
C'est une image érotique
très excitante pour
moi.
Pour toi.
Oui. c'est quelque chose qui est sur le pouvoir et qui est sur l'humiliation et qui est... Et ouais, c'est ça, hein. Et ça, c'est quelque chose... Aussi, une autre image, je vois cette femme avec une jupe un peu large et qu'elle soit suspendue à la tête en bas de telle manière que la jupe lui retombe sur le visage et qu'il y ait uniquement le bas de son corps qui soit exposé, mais plus du tout qu'elle puisse plus voir, qu'on voit plus. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je... Et aussi, là aussi, c'est une question de pouvoir, d'humiliation, voilà, peu importe ton joli visage, on s'en fout.
On va juste exposer le bas de ton corps, donc ton sexe et tes fesses.
Et... Voilà, et on va faire ce qu'on veut. Et voilà, donc, c'est pas une question... C'est pas uniquement une question de genre. Mais je pense que quelque part, dans ces fantasmes-là, en fait, je me projette dans la femme. C'est moi-même, je m'auto-torture, quelque part.
Parce que, est-ce que toi, tu as du désir pour des femmes ?
Pas vraiment.
T'es plutôt très hétérosexuelle.
Oui, j'apprécie esthétiquement les femmes, le corps des femmes, voilà. Les quelques fois où j'ai eu des expériences sensuelles, sexuelles, avec des femmes, j'ai trouvé ça agréable. Parce que embrasser quelqu'un, c'est agréable. Voilà, c'est parce que...
Elles ont la peau douce.
Exactement, elles ont la peau douce, tout ça. Mais ça ne m'excite pas plus que ça.
Quel rapport tu as au porno ? Est-ce que tu en regardes ? Est-ce que...
Assez peu. Moi, j'ai grandi sans la télé. Donc, toute mon éducation sexuelle en tant qu'enfant, adolescente, etc., s'est faite à travers les livres. Voilà, les images, les photos, mais pas les vidéos, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard, avec des choses que certains partenaires ont pu me montrer. Et donc... Mais c'est pas quelque chose où j'ai un réflexe. D'aller chercher ça, d'aller...
Parce que tu dis que tu te masturbes toujours assez peu.
Oui.
Donc en fait, t'as pas vraiment besoin de regarder du porno.
Non.
Est-ce que tu as des objets ou des sextoys ? Est-ce que t'en utilises ?
J'en ai. Je les utilise pas énormément. Et encore une fois, je les utilise surtout avec un partenaire.
Quel genre d'objet tu as ? Quel genre d'objet t'aimes bien utiliser ?
Alors, j'ai un god, j'ai un plug anal et un god anal, et j'ai un vibro. Voilà, et c'est occasionnellement, c'est amusant.
Mais t'en as pas toute une collection, quoi. C'est
pas... Ah non, pas du tout.
D'accord.
Et puis aussi, je trouve que il y a énormément d'objets qui sont pas immédiatement sexuels, mais qui peuvent être détournés sur le moment pour en faire des choses sexuelles.
Comme quoi, par exemple, t'as un souvenir précis avec un objet non sexuel, bien sexuel ?
Bah, l'exemple le plus, c'est les pinces à linge.
Pourquoi les pinces à linge ?
Bah, les pinces à linge, on prend des pinces à linge, on les met sur les tétons, par exemple. C'est quelque chose qui est une région très sensible. Moi, ça marche très très bien. J'ai pas besoin d'aller acheter des pinces spécialement dédiées à ça, pour ça.
Je te propose maintenant de répondre à des questions assez rapidement, en un mot, en une phrase. Quelle est pour toi la pratique la plus érotique ?
Tu vas devoir couper.
ouais, j'imagine.
En fait, c'est quand je ris que ça me fait tousser.
Vas-y, hein, tu peux boire un coup et tout si tu veux.
La pratique la plus érotique pour moi, c'est des choses inattendues. C'est quand le sexuel fait irruption dans un univers non sexuel.
Comme quoi ?
Donc par exemple, ça sera d'avoir d'être dans la rue et d'être avec mon partenaire. Et là, il passe sa main dans mes cheveux et il tire. Et juste, il me tient en tirant un peu sur le cuir chevelu. Et ça, c'est quelque chose de, pour moi, extrêmement érotique. Parce que, voilà, ça fait appel à ce mix de douleur et de plaisir. C'est une façon... Il y a un côté de contrôle. Quand on contrôle la tête, on contrôle tout le corps. C'est une façon de me signifier son pouvoir sur moi, même si on est dans un contexte non sexuel. Et moi, tout de suite, ça me fait partir.
Quel est pour toi le vêtement le plus érotique ?
Alors, c'est pas un vêtement, c'est plus... En fait, c'est tout ce qui a un côté entravé. Donc, ça va être tout ce qui est lassage, bride, des choses avec plein de petits boutons.
Les corsets.
Les corsets, mais les chaussures avec plein de brides, de lanières. En ce moment, depuis un petit moment, il y a plein de sous-vêtements qui sont extrêmement à la mode avec plein de harnais, de lanières, de tout ça. Ça me parle beaucoup. Voilà, les bottes avec les très hautes qui vont être lacées. J'aime pas du tout les bottes où il y a un lassage et une fermeture éclair sur le côté, c'est triché.
Quel est pour toi le lieu le plus érotique ?
J'ai pas vraiment de lieu qui me parle plus qu'un autre. C'est pas le lieu, c'est les personnes. Tout lieu peut être érotique avec les bonnes personnes.
Est-ce qu'il y a une œuvre érotique que tu as envie de conseiller ?
Alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est pas vraiment une œuvre et en plus c'est en anglais, donc ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais il y a un excellent podcast qui s'appelle Why Are People Into That.
Donc pourquoi est-ce que les gens aiment ça ?
Voilà. Et chaque épisode de ce podcast est dédié à une pratique sexuelle particulière. Et je trouve ça fascinant parce que j'aime beaucoup entendre des gens parler avec enthousiasme de ce qu'ils aiment. Et même du coup, si la pratique me parle pas du tout en soi, juste de les entendre en parler, on découvre un monde. Et,
comme quoi, par exemple ?
Par exemple, la pratique du boot blacking.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est des gens qui vont être cireurs de chaussures ou de vêtements en cuir, par exemple un pantalon en cuir ou des choses comme ça. Donc, c'est dans des événements dédiés ou fétiches ou tout ça. Ils viennent avec leur petite boîte de cirage. Ils prennent quelqu'un et ils s'occupent de leurs chaussures, enfin de leur cuir.
Et il y a des gens pour qui ça crée un vrai plaisir sexuel, ça.
Oui. Et là aussi, il y a une question, c'est un truc de... Bon, il y a le cuir. On sait très bien que le cuir, c'est une matière qui suscite tous les fantasmes.
Les tiens aussi ?
Dans une certaine mesure. J'aime les gants en cuir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce truc-là. Mais sinon, il y a aussi un côté sur, là aussi, domination-soumission. Et qui est dominateur, qui est soumis ? Parce que on pourrait penser que c'est la personne qui se fait cirer les chaussures qui est en position de pouvoir. Mais en fait, cette personne-là, elle est aussi captive de celui qui lui cire les chaussures. Et qui peut utiliser... où il y a un côté aussi massage à travers la chaussure ou le pantalon ou la veste ou que sais-je. Il y a les brosses qu'on va utiliser, apparemment il y a les odeurs des cirages.
Tout peut être érotisé, tout peut être fétichisé en fait.
Oui, et moi ça me parle pas ce truc-là. Le seul moment de l'épisode qui m'a vraiment parlé, c'est raconter une fois où. Il y avait une personne qui portait des bottes avec des cuissardes avec du coup des lacets très longs et la personne qui lui cirait les chaussures a commencé par enlever les lacets, l'attacher avec et après se livrer sur elle à tout et n'importe quoi avec le cirage et les brosses et tout ça. Et là, moi, ça me parle. Parce que voilà, le fait d'être attaché, voilà. Mais le reste me parle pas. Et pourtant, je trouve ça incroyable à entendre et ça ouvre des horizons. Voilà. Et il y a d'autres épisodes, par contre, qui me parlent beaucoup et qui me font réfléchir sur moi-même, sur les pratiques qui m'intéressent.
Ok. La seconde œuvre que tu voulais conseiller ?
La seconde œuvre, c'est... Alors, j'ai dit que j'étais pas très, très consommatrice de porno. Néanmoins, il y a un groupe de producteurs de porno dont je voudrais recommander le travail parce que je trouve que ça mérite d'être soutenu. C'est... Four Chambers, c'est un voilà c'est du porno mais très très beau qui explore les genres, les sexes, les types de rapports qu'il peut y avoir, qui mélange ça avec des images extrêmement belles.
C'est bien filmé.
C'est très bien filmé. On est dans la sensualité, dans l'érotisme à l'état pur. Là, ils ont fait récemment un truc qui est uniquement avec des... où ils utilisent énormément les fleurs. Et du coup, il y a des gros plans sur les fleurs, on dirait des organes sexuels. Et ils mélangent ça avec des scènes, pour le coup, avec des organes sexuels. Et c'est magnifique et excitant.
On va terminer là-dessus alors. Merci beaucoup Stella de nous avoir fait partager ta vie érotique aussi généreusement. J'espère que l'expérience t'a plu.
Oui.
Merci Stella.
De rien.
Salut.